世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。
Haïku, tout court, la petite émission pour partager de la poésie. Bonjour et bienvenue dans Haïku tout court, la petite émission pour découvrir et partager ensemble les plus petits poèmes du monde, à savoir les haïkus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un haïjin qui a de nombreux adeptes et qui est pourtant rarement cité comme l'un des plus grands maîtres du haïku. Et pourtant, il se nomme Ryokan. Taegu Ryokan est peut-être moins reconnu parce qu'il n'a pas écrit que des haïkus et qu'il était avant tout un moine bouddhiste de l'école Zen Soto. Il était surtout connu pour ses calligraphies. Ryokan signifie « grand cœur » et Taegu « grand idiot ». Il a durant toute sa vie été à l'image de ces deux surnoms, essayant de cultiver dans sa vie de tous les jours une simplicité et un dépouillement authentique. Né en 1758 et mort à 73 ans en février 1831, il est l'une des plus grandes figures du bouddhisme zen de l'époque Edo. Après avoir vécu un certain temps au monastère, il s'est retiré pour vivre une vie d'ermite un peu à part, vous le verrez. Sa vie d'ermite est souvent d'ailleurs la matière de ses poèmes. Et si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez au moins ce haïku, qui est l'un des plus connus. Pour le plaisir, je vous en donne deux traductions, mais il y en a beaucoup d'autres. Le voleur parti n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre. Le voleur a tout pris sauf la lune à la fenêtre. On raconte que ce poème a été composé un soir où sa cabane a été dépouillée du peu de biens qu'il possédait. Il existe d'ailleurs de nombreuses histoires sur la vie et les actions de Ryokan. Par exemple, au sujet de cette anecdote, on raconte que lorsqu'il a vu que le voleur avait tout pris, mais oublié de prendre son coussin pour faire zazen, il l'avait poursuivi pour le lui donner. On raconte aussi qu'ermite, il allait souvent jouer à cache-cache avec les enfants du village. On raconte aussi qu'un jour, comme une plante qu'il avait laissée pousser dans sa cabane commençait à buter contre son toit de chaume, il aurait enlevé une partie de celui-ci pour permettre à la plante de continuer sa croissance. N'est-ce pas beau tout cela ? Tout cela en tout cas contribue à la légende de Ryokan comme celle d'un moine original et empreint d'une folle sagesse. Ce dont on est sûr, c'est qu'il était l'aîné d'une famille de 10 enfants. Son père était un auteur de haïku assez connu. Sa famille était aisée et il a grandi dans une ambiance littéraire et religieuse. D'ailleurs, d'autres frères et sœurs sont aussi devenus des religieux bouddhistes. Il sera ordonné moine à l'âge de 21 ans et il pratiquera zazen dans l'un des temples les plus stricts et exigeants de l'époque. Pendant 12 ans, Ryokan étudiera dans le temple de Hantsuji où il apprendra le waka, la poésie chinoise, les ranga, donc les vers enchaînés, ainsi que la calligraphie. En 1791, à la mort de son maître Dogen, il va quitter le monastère et errer pendant 5 ans, vivant une vie de moine mendiant itinérant. Et à l'âge de 38 ans, il s'installera dans une cabane, son ermitage non loin de son village natal. Voilà quelques beaux haïkus de notre moine zen. J'en profite pour dire que le haïku peut aussi être considéré comme une voie possible pour expérimenter une sorte d'éveil proche du satori. Ce mot satori signifie « compréhension » et c'est bien souvent ce que l'on ressent parfois à la lecture d'un haïku. Pour faire du feu, le vent m'apporte assez de feuilles mortes. À la surface de l'eau, des sillons de soie, pluie de printemps. Le monde est devenu un cerisier en fleurs. Vent bleu, dans mon bouillon clair, des pivoines blanches. Sans souci, sur mon oreiller d'herbe, je me suis absenté. Il finira sa vie dans cette cabane en ayant vécu uniquement d'aumône et en toute simplicité dans un coin reculé d'une montagne. Il écrivait à ce sujet « Si ce n'est parce que son chemin s'est égaré, personne ne viendra jusqu'ici. » Il existe deux livres importants sur ce moine poète. Ryokan, moine errant et poète, d'Hervé Collet et Chang Wing-Fun, le plus complet sur la vie du moine. Et il existe aussi un recueil de poèmes, 99 haïkus de Ryokan, aux éditions Verdier, avec une traduction de Joan Titus Carmel. Joan Titus Carmel a passé 10 ans de sa vie de traductrice à essayer de transcrire les 99 haïkus du recueil. À la fois car il est difficile d'en traduire la sensibilité, mais aussi parce qu'elle a souhaité garder leur rythme 5-7-5 et conserver toute leur musicalité. Voici quelques exemples de ces traductions. Des jours et des jours que tombe la bruine et l'homme vieillit. Allons, c'est fini, et moi aussi je m'en vais. Crépuscule d'automne. Ah, le rossignol, son chant m'a sorti d'un rêve. Le riz du matin. Un très vieil homme, son corps saisi dans le froid, bambou sous la neige. Voilà encore quelques haïkus de Ryokan que j'ajoute, mais qui ne sont pas forcément des traductions de Joan Titus Carmel. Sortant de mes rêves, le coassement lointain des grenouilles vertes. Le ciel clair d'automne, des milliers de moineaux, le bruit de leurs ailes. Sans être poudré, la blancheur de ton visage, jeune mariée. Je propose maintenant de découvrir ce qui pourrait résumer sa façon de concevoir la poésie. Il écrivait lui-même « Qui dit que mes poèmes sont des poèmes ? Mes poèmes ne sont pas des poèmes. Si vous comprenez que mes poèmes ne sont pas des poèmes, alors nous pouvons parler poésie. » On dirait une sorte de koan, ces leçons ou petites histoires zen un peu paradoxales destinées à nous éveiller. Pour clore cette émission, consacrée à ce moine zen et poète, je vous propose de partager des haïkus qui sont en rapport avec la religion. J'aurais pu puiser dans ceux de Kerouac, tant le zen et la spiritualité orientale sont à l'origine de ces haïkus, mais je préfère choisir des poèmes japonais, souvent espiègles, empreints de religiosité. Je vais vous lire des haïkus de Shiki, Issa et Busson. Au Bouddha, je montre mes fesses, la lune est fraîche. De la narine du grand Bouddha jaillit une hirondelle. Sur l'image sainte, elle lâche une fiente, l'hirondelle. Voilà, un peu d'humour et d'autodérision et de dérision sur la question, en tout cas, de la religion et de la spiritualité, forcément très très présente dans la plupart des haïkus, que ce soit clairement ou en filigrane. Comme toujours, finissons cette émission par un petit exercice.
Écrire des poèmes, c'est chercher la beauté, comprenez-vous ? Dans ce qu'on a sous les yeux.
Pour cette émission, je vous propose de prendre une phrase d'un haïku, si possible le kigo. Mais n'importe quelle phrase peut convenir. Il suffit que vous aimiez ce haïku et que vous aimiez cette phrase qui ne doit pas être de vous. Et après avoir oublié de quel poème cette phrase est tirée, il vous suffit d'inventer vous-même trois poèmes incluant cette phrase. Dans chaque poème, l'un des sens aura le plus d'importance, l'un des cinq sens. Cela paraît bête, mais écrire à partir d'un bout de poème peut être un bon moyen de se mettre à écrire et surtout s'imposer de traiter une même chose, un même événement, de plusieurs points de vue. Cela rappelle qu'un même sujet peut faire l'objet de plusieurs haïkus bien différents les uns des autres. Bonne chance! Merci à vous d'avoir écouté cette émission. À la semaine prochaine, nous en apprendrons encore un peu plus sur l'univers fascinant des haïkus et sur les haïjin, et nous découvrirons quels sont les bienfaits de la pratique du haïku et les avantages pédagogiques que l'on peut en tirer, car il y a peut-être des enseignantes et des enseignants ou des parents qui écoutent cette émission poétiquement vôtre.